La question des représentations est à la fois centrale et transversale. Elle fait écho à différentes questions qui ont été soulevées dans les différents ateliers. Et elle sera ici abordée en lien avec une autre question transversale, le genre. Le genre qui sera, dans les trois interventions, abordé de manière croisée. D'abord, à travers la présentation de Marion Dalibard. Marion Dalibard, qui est maîtresse de conférences à l'Université de Lille et qui nous parlera des masculinités ethno-racialisées, rappeurs et rappeuses dans le monde, Libération et Le Figaro. On lui laisse la parole en la remerciant d'avance.
Merci à vous. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ma part, moi, je me propose d'analyser la médiatisation du rap dans la presse nationale généraliste dite de référence, donc ça veut dire Libération, Le Monde et Le Figaro, et ce, de janvier 2000 à décembre 2015. Et le but donc, de ce travail, ça va être d'une part de repérer les cadrages médiatiques récurrents qui sont utilisés par les journalistes pour rendre compte de ce genre musical, et d'autre part donc, d'analyser les représentations des rappeuses et rappeurs qui sont les plus visibles, et ce donc, dans une perspective intersectionnelle, c'est-à-dire en croisant la dimension du genre, de la race, de la sexualité ou encore de la classe sociale. Et je précise aussi que ce travail a été effectué avec mes étudiants donc de la licence 2 Industrie culturelle, arts et société de l'Université de Lille. Donc je suis juste là pour présenter les résultats d'une recherche qui est donc collective. Et donc ensemble, on a analysé un corpus de 523 articles comprenant le mot-clé « rap » dans le titre. Et notre travail, ça a été en fait de saisir la manière dont ces quotidiens généralistes, qui sont donc non spécialisés dans le domaine culturel, vont donner du sens au rap et au sein d'une arène médiatique spécifique, donc les médias d'information généralistes, arène qui va avoir la particularité de participer à la construction d'un espace public national, c'est-à-dire d'un espace qui contribue, entre autres, à la construction idéologique du « nous » de la nation française, et donc à la définition de sujets qui seraient symboliquement inclus ou exclus de ce « nous » qui renvoie en fait à une définition hégémonique de la francité. Donc je ne vais pas avoir le temps de présenter l'ensemble des résultats de cette étude, et notamment des moyens utilisés dans la presse qui servent à valoriser ou non les rappeurs et rappeuses, mais on pourra y revenir, bien sûr, pendant la discussion. Par rapport, donc, pour commencer, à la visibilité médiatique du rap, donc, comme on peut le voir sur le graphique, le nombre d'articles publiés par an sur ce genre musical est relativement aléatoire selon les années. Donc si on regarde l'année 2000, on se rend compte qu'il n'y a que 15 articles de publiés sur ce genre musical dans la presse quotidienne dite de référence, alors qu'on va en avoir 62 en 2006. Et cette irrégularité va provenir du fait que les quotidiens d'information rendent compte d'une actualité musicale autour du rap, donc sortie d'albums, concerts, etc. Actualité qui peut être plus ou moins riche selon les années, mais aussi du fait qu'il peut y avoir différents problèmes publics ou d'affaires vis-à-vis duquel le rap est associé et qui du coup va contribuer à l'augmentation de sa publicité. Donc par exemple, si on regarde l'année 2003, là, l'augmentation du nombre d'articles, c'est l'affaire Sniper, tout comme en 2005, là, on a, en fait, c'est les émeutes dans les banlieues de novembre 2005 qui expliquent l'augmentation, parce que le rap a été présenté cette année-là comme un facteur explicatif des émeutes à cette période. Et donc la médiatisation du rap dans la presse française va rendre compte du même processus qui a été décrit avant par Karim Amou à propos de la télévision de 87 à 91, c'est-à-dire que le rap va être donné à voir à la fois comme une expérience esthétique mais également en lien avec des problèmes publics ou des problématiques sociales. Donc du point de vue des cadrages médiatiques les plus importants, on remarque que la plupart des articles présentent le rap comme étant avant tout une expérience esthétique, et donc je ne sais pas si vous voyez bien sur le graphique, mais en gros on a 58% des articles qui portent sur un artiste ou un groupe, 9% des articles qui vont porter sur l'organisation d'un festival ou d'un concert, et 8% des articles qui portent sur le genre hip-hop en tant que tel, ce qui en totalité ça représente 75 articles du corpus. Et par contre, les autres articles du corpus vont être souvent reliés à des cadrages qui rendent compte de problématiques sociales et ou politiques. Donc on remarque par exemple que 12% des articles ont par exemple pour cadrage le rap en tant qu'il pose problème à la société. Donc en plus de faire état de violences lors de concerts ou dans le milieu rap, par exemple possession d'armes à feu par certains artistes, règlement de compte entre rappeurs, etc., les articles classés sous ce cadrage vont porter souvent sur des affaires qui opposent donc certains artistes avec la justice suite au dépôt de plainte d'hommes politiques de droite, hein, généralement. Et dans ce cas-là, donc les articles vont donner à voir les groupes pris dans ces affaires, comme Sniper, La Rumeur, comme étant donc qualifiés au choix d'antisémites, d'homophobes, de sexistes, de racistes anti-blancs, d'anti-français ou encore d'anti-police, et ce donc par des politiques, des juges, des associations, etc. Et donc dans le cadre de la médiatisation de telles affaires, les rappeurs vont être finalement mis en scène comme pouvant s'attaquer aux idéaux ou fondamentaux républicains, et notamment à la valeur d'égalité. Et donc, ça va contribuer à rendre compte de ces artistes comme étant un « eux », faisant face donc à un « nous », au « nous » de la nation. Plus globalement, donc, les articles qui sont classés sous ce cadrage, le rap en tant qu'il pose problème à la société, rend toujours compte d'un fait qui se passe dans un pays occidental, donc la France ou les États-Unis. Et à l'inverse, les 4% d'articles qui sont classés sous le cadrage, le rap en tant que vecteur d'émancipation politique, là, va rendre compte généralement d'une information qui sera territorialisée dans un pays, on va dire, non occidental, comme Cuba, l'Algérie ou encore le Maroc. Et sous ce cadrage, les articles vont donner à voir le rap positivement, car il est présenté comme permettant aux individus donc, de prendre part à la politique, de la critiquer, voire de s'y opposer, dans un pays où le pouvoir politique et ou religieux est présenté comme étant arbitraire et totalitaire. À l'inverse, donc lorsqu'un rappeur français porte un discours critique sur le système politique et institutionnel, donc je ne sais pas moi, dénonciation du racisme systémique ou des violences policières par exemple, et qu'il est poursuivi en justice, là les articles en rendant compte auront pour cadre le rap en tant qu'il pose problème à la société, et le rap n'est jamais présenté comme étant un vecteur d'émancipation politique en ce qui concerne la France et les États-Unis, donc l'Occident en somme. Du point de vue maintenant de la publicité accordée aux rappeurs et rappeuses, donc je ne sais pas si c'est très clair ce tableau, donc désolé, mais on remarque que la publicité est très différente selon les artistes, c'est-à-dire que sur une quinzaine d'années, on compte par exemple 16 articles publiés sur La Rumeur, donc c'est La Rumeur qui est le groupe le plus publicisé dans la presse quotidienne de référence. On en a 12 sur Oxmo Puccino, 11 sur Eminem, alors que d'autres artistes vont faire l'objet de relativement peu d'articles. On a par exemple un article sur Common, Jollof, etc. Et de façon générale, peu importe le nombre d'articles dont les rappeurs ou rappeuses font l'objet, ces derniers vont être intrinsèquement racialisés, car la blanchité des artistes qui sont socialement identifiés comme étant blancs va être systématiquement soulignée. Donc par exemple, Eminem, Buck65 ou Orelsan, dans les articles, vont être qualifiés très souvent, je cite, donc de rappeurs blancs. Et dans les médias français, en fait, la blanchité constitue une norme représentationnelle et elle est tellement omniprésente qu'elle n'est jamais soulignée en fait, par les journalistes généralement. C'est-à-dire que seuls les non-blancs vont être catégorisés comme tels dans les termes utilisés pour les désigner ou les définir, donc par exemple les minorités visibles, les habitants de banlieue, etc. etc. Alors que là, quand les médias rendent compte du rap, finalement la blanchité apparaît comme étant une anomalie. Et ce marquage, on va dire, socio-discursif de la race des rappeurs et rappeuses va aussi se matérialiser d'une autre manière, c'est-à-dire qu'ils vont être affiliés constamment à un territoire associé dans les imaginaires médiatiques aux minorités ethno-raciales. Donc on a pour les rappeurs français, le territoire, ça va être la banlieue ou les territoires d'outre-mer, alors que pour les Américains, ça va être ce que les journalistes appellent les ghettos. Et au sein de ces territoires, les rappeurs et rappeuses vont être souvent décrits comme ayant une enfance, une adolescence, voire une entrée dans l'âge adulte difficile, ce qui du coup va conduire à les racialiser encore plus fortement, parce que ce type de récit fait écho à des représentations de la race qui circulent par ailleurs dans cet espace national qui est matérialisé donc par les médias. Et donc ces artistes vont être très 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 souvent décrits comme étant, enfin comme ayant été élevés dans une famille monoparentale pauvre, dans un quartier où peuvent sévir gangs et trafic de drogue. Donc il y a 50 Cent, là je vous ai mis quelques citations et quelques exemples. Donc 50 Cent est par exemple décrit dans Libération comme étant, je cite, donc orphelin, car il a grandi sans père, et sa mère, dealeuse, est retrouvée morte alors qu'il a 12 ans. Dealer notoire, le futur 50 Cent, se reconvertit dans le rap à la naissance de son fils et à l'aube de ses 20 ans. Et les rappeurs sont fréquemment décrits comme ayant pu participer à des crimes divers, vols, trafic de drogue, violences plus ou moins graves. Booba, par exemple, est présenté dans Libération comme ayant, à l'âge de 26 ans, je cite, « deux albums et deux passages par la case prison à son actif ». Donc le récit d'une jeunesse problématique et souvent malheureuse sert également à marquer la classe sociale des rappeurs identifiés comme blancs, et notamment donc leur appartenance aux classes populaires, à l'image d'Eminem, qui va être présenté dans Le Monde. Alors attendez, je crois que... mes citations n'apparaissent pas, mais c'est pas grave, je vais les dire. Donc dans Le Monde, Eminem va être présenté comme étant, je cite... n'ayant pas connu son père, pardon, et décrivant dans ses chansons et ses interviews une enfance pauvre et sordide, auprès d'une mère qui se droguait et la trimballait un peu partout. Il est le plus petit de son école, se fait beaucoup tabasser, souvent par le plus grand, un noir, jusqu'à sombrer un jour dans le coma. Et les rappeurs et rappeuses français et nord-américains vont en outre être ethnicisés dans le récit médiatique, en étant associés à des modes de vie, à des valeurs et à des traits culturels particuliers. Et donc l'association des rappeurs à une certaine ethnicité va conduire à les différencier ou à les rapprocher d'une ethnicité modèle qui répond à celle de la nation française. Et pour le dire autrement, et comme l'ont déjà mis en avant Laurent Berru et Karim Amou, les médias vont donner à voir une cartographie d'identité socio-discursive qui vont être associées à des rappeurs et rappeuses qui bénéficient de plus ou moins de reconnaissance médiatique et sociale. Donc les rappeurs dont les caractéristiques culturelles et modes de vie auxquels ils sont associés, on va dire, répondent symboliquement à l'horizon d'attente normative de la nation, là, seront construits en tant que bons rappeurs ou en tant que bonnes rappeuses, et du coup, ils vont être fortement valorisés dans les médias, tandis que celles et ceux qui vont être associés à une ethnicité repoussoire, là, vont être construits qu'en tant que mauvais rappeurs ou mauvaises rappeuses. C'est bien souvent des mauvais rappeurs. Et donc, dans la médiatisation du rap, l'ethnicité repoussoire associée à certains rappeurs va être souvent symbolisée par la description de leur performance de genre, et d'ailleurs, tout comme l'ethnicité correspondant, on va dire, à la francité qui est affiliée à d'autres rappeurs, va être aussi souvent symbolisée par la description de leur performance de genre. Donc les rappeurs hommes disqualifiés dans le discours médiatique vont être ceux qui vont être affiliés à une masculinité exagérée et viriliste. Et notamment, donc, il y a les rappeurs qui vont être associés au gangsta rap. Et à cet égard, donc, il y a l'identité socio-discursive de 50 Cent qui est donc exemplaire. Donc, par exemple, 50 Cent va être présenté dans Libération comme étant, je cite, « la grande gueule du rap américain, le gangsta dans toute sa virilité ». Il est régulièrement associé à la violence et à la délinquance, son passé de dealer de drogue est régulièrement narré, tout comme d'ailleurs la tentative de meurtre dont il a fait l'objet, donc comme on peut le voir dans l'extrait d'article de Libération que je vous ai mis sur la diapo, donc je cite, 50 Cent échappera de peu à une tentative de meurtre en avril 2000, dont il exhibe les trophées, 9 impacts de balles, dont un dans la joue. Donc il va être décrit comme étant fier finalement des stigmates corporels du milieu violent dans lequel il a évolué, et sa dureté et son manque de sensibilité sont constamment mis en avant par les journalistes, et du coup va conduire à lui associer une masculinité repoussoire qui sera synonyme de brutalité. Donc par exemple, il y a 50 Cent qui répond à une interview lors de la sortie du film Réussir ou mourir où il a joué, et c'est un film qui est présenté donc comme racontant la vie de 50 Cent, et là le journaliste va mettre en avant son souhait de ne pas montrer ses sentiments pour ne pas apparaître trop faible, donc je cite, « dans le film, le moment que je redoutais le plus était la scène où je devais pleurer. Bien sûr, j'ai des émotions, mais j'ai appris à les enterrer. Là d'où je viens, si tu montres tes faiblesses, tu es une victime. » Et le virilisme de certains rappeurs va s'incarner également dans les médias par une hétérosexualité outrancière à laquelle ils sont souvent associés, et ce, en les présentant comme étant sexistes et ou homophobes. Donc, ce qui fait qu'il y a un grand nombre d'articles qui fait état de la misogynie dans le rap, donc à l'image, par exemple, d'une enquête publiée dans Libération intitulée « La dérive commerciale et sexiste de la culture hip-hop ». Et de plus, les propos homophobes de certains rappeurs vont être régulièrement rapportés dans les médias, donc comme ceux d'Eminem dans Le Monde, je cite « Si Joël est pédé, la réponse est oui, rappe-t-il. Les groupes d'homosexuels sont scandalisés par les attaques systématiques d'Eminem contre leur communauté, même si le phénomène n'est pas à nouveau dans le rap. » Cette association de certains rappeurs non blancs et ou blancs de classe populaire à une masculinité repoussoire est d'autant plus forte que les journalistes vont valoriser systématiquement les artistes qui n'auraient pas ce type de masculinité et artistes qui vont être associés à la blanchité et aux classes moyennes supérieures. Donc par exemple, à ses débuts et avant la polémique autour du titre d'Aurel San, sale pute, qui va du coup l'associer au sexisme, Aurel San va être présenté comme étant différent des autres rappeurs, car d'une part, il est blanc et il provient d'un territoire et d'un milieu qui n'est pas habituellement associé au rap. Ça veut dire que ses origines normandes et l'appartenance aux classes moyennes de ses parents sont constamment soulignées par les journalistes. Et d'autre part, Aurel San va être présenté comme étant différent parce qu'il porterait un discours distinct de celui des autres rappeurs. Et il s'adresserait notamment donc, aux jeunes de sa génération, implicitement blancs, et contrairement aux autres, qui eux vont être décrits comme étant les porte-parole des minorités ethno-raciales. Donc il va être par exemple présenté dans Libération comme arrivant, je cite, « de la périphérie cannaise, Hérouville-Saint-Clair, pour compter sur un mode hip-hop, cette réalité des jeunes de sa génération, qui à l'opposé de la désastreuse caricature Booba et consorts, trimballent leur tergiversation entre jeux vidéo, fantasme X et biture. » Autre exemple très significatif, c'est Buck65, donc qui est un rappeur systématiquement présenté comme étant blanc, canadien et de classe moyenne, et qui va de façon constante être décrit comme étant une anomalie dans le champ du rap, parce que premièrement, donc, il n'aurait pas les mêmes influences culturelles que les autres, donc il est souvent décrit comme écoutant du folk, par exemple, donc genre qui est plutôt associé, on va dire, dans les imaginaires à la blanchité, et surtout, il n'hésiterait pas à mettre en avant ses émotions et sa sensibilité. Donc il y a un article de Libération qui est intitulé de manière très, on va dire, très significative de ce qu'on veut rendre compte. Donc le titre, c'est « Un peu de tendresse dans ce monde de brut ». Et donc Buck65 va être décrit, je cite, comme étant un Canadien d'une trentaine d'années qui habite depuis un an et demi à Paris, du côté de Saint-Germain, où tout est merveilleux et précieux. DJ pour une radio de sa nouvelle Écosse natale, il rappe sur ses nombreux albums. Mais en lieu et place des traditionnelles chaînes en or, lui porte un petit médaillon à l'effigie de Johnny Cash autour du cou. Il a pleuré, dit-il, en apprenant sa mort. Concernant les femmes, le peu de rappeuses médiatisées vont être également associées à une certaine masculinité. Donc sur les 180 artistes faisant l'objet d'un article dans notre corpus, il y a seulement 6 rappeuses qui sont médiatisées et seulement donc, des Françaises. Donc il y a Diams, Lady Lesty, Kazay, Kenny Arcana, Bams et Princesse Agnès. Et en fait, au début des années 2000, là il y a aussi une évolution, c'est qu'au début des années 2000, les femmes étaient vraiment associées dans les articles au R&B, alors que les hommes étaient associés au rap. Et à partir de la moitié des années 2000, là, les femmes vont être présentées comme étant rappeuses à part entière. Et d'ailleurs, celles-ci vont plutôt être représentées très positivement, tout en étant associées à une certaine masculinité. Donc, c'est-à-dire que les rappeuses vont être souvent présentées comme n'ayant pas une performance de genre très féminine. Donc, Princesse Agnès et Kazay sont par exemple définies dans Libération comme étant, je cite, des garçons manqués. Il y a Diams aussi, on le fait toujours. Enfin, il y a très souvent des journalistes qui vont dire que Diams en a dans la culotte, par exemple. Et la masculinité des rappeuses, qui se traduit en fait par les journalistes comme étant un manque de féminité, va être souvent valorisé dans les médias parce que finalement, ça va servir à dissocier ces artistes féminines de la figure repoussoire et hypersexualisée de la bitch plus présente dans le R&B. Et donc on a Le Monde qui présente par exemple Kazay et Kenny Arcana comme étant, je cite, comme ayant pardon, développé une esthétique allant à l'encontre de l'imagerie, bimbo, survette, casquette, rasta, maquillage zéro. Et contrairement aux rappeurs, la masculinité des rappeuses apparaît comme un atout car elle s'oppose à l'hyperféminité d'autres figures de rappeuses ou de chanteuses de R&B qui, elles, sont non visibles dans le corpus. Et finalement, cette invisibilité va être synonyme de dépréciation médiatique à l'égard aussi de certaines performances de la féminité qui seraient considérées comme étant outrancières. Et néanmoins, donc la masculinité associée aux rappeuses est aussi utilisée dans la presse pour marquer la race ou l'ethnicité de ces artistes féminines, parce que la représentation du genre conduit souvent à ethno-racialiser les groupes sociaux dans les médias. Et d'ailleurs, cette frontière symbolique ethno-raciale qui est construite dans la médiatisation du rap, entre les blancs et les non-blancs via la représentation du genre, va se voir fortement concernant les rappeurs masculins, qui sont donc beaucoup plus nombreux dans le corpus qu'on a étudié. Et en fait, la médiatisation du rap participe à la définition d'une bonne masculinité qui serait associée donc à la blanchité et aux classes moyennes et supérieures, et parce que cette masculinité va être synonyme de douceur, de sensibilité, de respect des femmes et des homosexuels. Et en fait, les rappeurs blancs qui sont associés à cette masculinité vont être décrits dans la presse comme étant exceptionnels et des exceptions dans le milieu du rap. Et cette masculinité blanche hégémonique, pour reprendre les termes de Rewin Connell, va conduire à disqualifier la masculinité affiliée aux minorités ethno-raciales ou aux blancs de classe populaire, masculinité qui va être, elle, définie dans les médias comme étant viriliste, sexiste et homophobe. Donc, en conclusion, on peut voir que le rap est un genre musical qui se voit fortement altérisé dans les médias étudiés, parce qu'il est associé aux minorités ethno-raciales, à la performance de genre qui serait disqualifiée, et plus rarement aux blancs des classes populaires. Et donc, on voit que cette médiatisation est significative de rapports de pouvoir à la fois de race et de classe, parce qu'elle participe à la production d'un récit médiatique national, où ceux qui sont mis en scène comme étant symboliquement inclus dans la définition hégémonique du « nous » national vont être associés à la blanchité et aux classes moyennes supérieures, tandis que ceux qui sont donnés à voir comme étant exclus de cette définition sont plutôt des hommes non blancs ou des blancs appartenant aux classes populaires.